Bonjour à tous, merci de nous retrouver. À présent, les titres à la ligne de l'actualité. Comme 2023, la Côte d'Ivoire est encore sur son nuage. Les Ivoiriens ont remercié Dieu ce samedi pour la victoire des éléphants. Une occasion pour les guides religieux d'inviter les populations à l'union et à la cohésion. De cohésion sociale, il en est également question à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les cadres issus de cette région ont été invités à prôner la paix en toutes circonstances. C'était ce samedi lors du lancement d'un programme alimentaire d'urgence. Sur le continent, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche à Addis Abeba. Les dirigeants du continent ont évoqué les crises qui secouent l'Afrique et se disent inquiets. Dans cette édition, vous aurez un dossier d'actualité portant sur l'enclavement du village d'Adjaou dans le département de Ouélé, un village qui manque d'eau potable, et ce dossier vous sera proposé par François Kra. Et puis invité de la rédaction, le professeur de droit privé à l'université numérique, cher Amidou Kan de Dakar, Jean-Louis Correa, se prononcera sur la situation politique au Sénégal. Il sera interrogé par Constant Maïdé. Monsieur, bonjour et bienvenue. Une cérémonie de lancement de prière écuménique des confessions religieuses après la victoire des éléphants à la CAN 2023 a été l'occasion d'un appel à la cohésion sociale de tous les Ivoiriens. C'était ce samedi 17 février 2024 au Palais de la Culture de Treizeville en présence du Premier ministre Robert Beugré-Bambé. Junior Cardin.
Toutes les confessions religieuses que compte la Côte d'Ivoire étaient réunies pour cette célébration de la victoire des éléphants. Victoire qui, selon le président du COSIM, Imam Ousmane Diakité, enseigne aux Ivoiriens quatre leçons essentielles.
Premièrement, la soumission à l'être suprême. Deuxième, c'est la reconnaissance, la gratitude envers le Créateur suprême. Troisième leçon, c'est l'unité. Oh Dieu, par ta grâce infinie, le peuple de Côte d'Ivoire a su faire preuve d'unité et de cohésion en dominant cette divergence interne pour constituer le bloc commun d'un peuple uni et déterminé pour la réalisation d'un objectif clair et fédérateur derrière notre équipe nationale. La quatrième leçon, c'est le pardon.
Au nom de l'Église catholique, l'évêque du diocèse d'Abouville, Alexis Touabli, a souhaité que la Côte d'Ivoire aille de victoire en victoire.
Victoire sportive, mais aussi victoire économique, victoire spirituelle, victoire culturelle. Bénis ce peuple, Seigneur. Fais de la Côte d'Ivoire une terre de victoire.
Cette CAN a montré plusieurs facettes du peuple ivoirien, au dire du Premier ministre Robert Beugré-Bambé.
C'est vrai, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, mais la plus grande coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la coupe de la fraternité, de l'amitié, de la solidarité, c'est la coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité.
Tous les intervenants ont demandé au Seigneur de rapprocher davantage à travers cette CAN les cœurs des Ivoiriens et de renforcer ainsi leur unité et leur cohésion.
Merci à vous, Junior. Retrouvons-nous à Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où Aoutou Kofi Emmanuel, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, en dépit de sa défaite à la dernière élection municipale, s'est engagé à contribuer au développement de sa région. Il a invité les cadres issus de différents bords politiques à en faire autant. C'était le samedi 17 février, à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme alimentaire d'urgence. Au témoin pour Radio de la Paix, Joseph Assalé.
Candidat malheureux aux dernières municipales à Sakassou, le candidat du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dit avoir tourné la page des batailles électorales pour se mettre résolument à la disposition de sa région en vue d'impulser le développement local. Aoutou Kofi Emmanuel, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République.
Le temps des élections est passé. Le temps du travail est arrivé. J'ai appelé mon frère, le maire Kofi Ejène, pour lui demandé de me donner le calendrier des sessions à venir du conseil municipal. Je prendrai toute ma place au sein du conseil municipal de Sakassou avec mes 6 autres frères et sœurs conseillers de ma liste pour que nous puissions apporter notre modique contribution à Sakassou.
Pour qu'il en soit ainsi, il appelle à l'union sacrée des cadres.
Un appel à la solidarité, à l'entente, parce que nous cadres, nous devons nous unir pour aider nos parents.
Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, à l'occasion du lancement du programme alimentaire de production d'urgence, a salué la cohésion entre les cadres de Sakassou.
Tenez-vous bien, j'ai regardé le programme, j'avais vu au départ que madame le député ne devrait pas parler. Quand je n'ai pas vu son nom, j'ai appelé Aoutou, mais c'est elle qui représente les populations, elle doit parler. Mais sous notre cieux, on m'aurait dit le contraire.
Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Dans cette édition parlant de lutte contre la pauvreté en milieu rural, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, en abrégé PGDEC 3, propose de nouvelles approches AGR-MPE, entendez activités génératrices de revenus et moyennes petites entreprises, et c'est dans plusieurs localités de la région du Tonkpi. Cas du village de Drongouiné, dans la sous-préfecture de Danané, et on en sait un peu plus avec vous, Stéphane Adams.
Le projet PGDEC 3 d'accompagnement à l'auto-emploi, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le Conseil régional du Tonkpi à Drongouiné, un village de la sous-préfecture de Danané, pour son opération d'enrôlement des volontaires. L'avis de quelques-uns.
Bonga Désiré. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est AGR qui m'intéresse parce qu'il y a un nouveau CM2. Je vais faire le commerce et j'ai déjà commencé. Je commence à construire la boutique, il n'est même pas encore fini. Je cherche un moyen qui peut m'aider. Le projet est bienvenu. Je vais m'inscrire et puis espérer bénéficier du projet dans le village. J'ai dit merci au conseil régional de Tonkpi et à la Banque mondiale pour avoir pensé au village de Drongouiné et à sa jeunesse.
C'est Ré Véronique. Et pour travaux champêtres, je vends chaque matin Baka. Je suis prêt pour m'enrôler pour bénéficier du projet. J'ai dit merci à la Banque mondiale qui a donné beaucoup d'argent pour que le conseil puisse compléter pour nous aider.
Bien que les jeunes soient disposés à l'enrôlement, toutefois, des préoccupations demeurent. Il s'agit des volontaires ne remplissant pas les critères, mais favorables au projet à l'image de
Blonier d'appeler Jean-Claude. On a bien saisi le projet. Moi, personnellement, mon âge a avancé, mais je souhaite que le projet se passe très bien dans mon village. Je dirais à tous mes frères, mes soeurs, de se faire enrôler pour ce projet. Je dis vraiment merci au conseil régional d'avoir pensé au village de Drongouiné.
Notons que la lutte contre la pauvreté en milieu rural se poursuit progressivement avec le projet PGDEC 3 dans le Tonkpi. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Du Tonkpi, retrouvons-nous dans le Lodjiboa. Désormais, le premier samedi de chaque mois sera consacré à des opérations de grand ménage dans les différents quartiers de la ville de Divo. C'est une volonté des nouvelles autorités municipales de la ville et l'opération grand ménage a été lancée le samedi 17 février. Plus de détails avec notre correspondant régional, la belle César Cassin.
À la tête d'une délégation rehaussée par la présence du corps préfectoral de Divo, le maire Ali Touré a pris part à ce grand ménage qui a consisté à enlever des dépôts sauvages d'ordures, à curer les caniveaux à certains endroits, à sévir quand la nécessité s'imposait.
Hein? Donc on ferme ça. Quand ici, ça va nettoyer, vous allez récupérer. Vous le nettoyez tout de suite là. Si vous ne le nettoyez pas, on saisit tout.
Dans un discours plus officiel, voici ce que le maire Ali Touré attend désormais de ses concitoyens.
C'est une affaire de tous. Parce que quand on parle de santé, la première des choses, c'est la propriété. C'est pourquoi j'invite ici nos chefs traditionnels, nos chefs de village, nos chefs de communauté, nos guides religieux, nos responsables de jeunes, des femmes, à vraiment s'impliquer dans nos différents quartiers, à faire en sorte que nos quartiers, nos villages soient propres et que quand on rentre à Divo, qu'on ne voit plus d'état d'ordure ça et là. Et cela est possible.
Le préfet Guéhi Afouéjeannette, au nom de l'administration, s'est inscrite dans la même logique.
Propre, un environnement sain donne fier allure à la ville. On a beau avoir des infrastructures, mais si la ville n'est pas propre, on ne verra pas la beauté de celle-ci.
L'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, dont le siège régional est à Gagnoa, était représentée par son directeur régional, Koné Issouf. De Divo Abel, César Cassin, Radio de la Paix.
En sort de chez nous, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Abeba en Éthiopie. La trentaine de dirigeants du continent a évoqué les crises qui secouent l'Afrique. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a profité de la dernière année de son mandat pour rappeler l'urgence politique et sécuritaire qui mine le continent et fragilise gravement ses institutions. Bankole Adeoye, commissaire des affaires politiques du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, dit qu'il relaie l'inquiétude des chefs d'État et de gouvernement concernant la déstabilisation de plus en plus fréquente sur le continent, notamment les putschs militaires. Il a tout de même rappelé que l'Union africaine a joué les observateurs pour 13 élections l'an dernier et qu'elle va le faire pour les 15 scrutins à venir cette année. De retour en Côte d'Ivoire, retrouvons notre correspondant François Kra qui a visité le village d'Adjaou situé dans le département de Wélé. Plus de 500 âmes y vivent, un véritable calvaire en raison du manque d'eau, d'eau potable, d'infrastructures éducatives, routières, de structures sanitaires, donnant à cette localité l'allure d'une contrée de la Côte d'Ivoire oubliée par le développement. Suivons son dossier d'actualité.
Deux voies donnent accès à ce village, issu du canton Adjé, un sous-groupe Baoulé. À l'entrée gauche, en provenance de Daokro, près de 20 km de piste, une pompe hydraulique villageoise est prise d'assaut par la jeune féminine. Priée Amouin-Coulette, la présidente des femmes, explique.
Les femmes ne dorment pas à cause de l'eau. On a deux pompes, c'est pas suffisant. Il faut se lever à 4h du matin pour pouvoir avoir accès, puisque si tu t'en vas pas du moment, s'il y a du monde, tu ne peux pas finir tôt pour aller au champ. Donc vraiment, c'est un souci pour les femmes.
Selon elle, l'eau potable n'est pas seulement leur calvaire.
Et puis notre manioc là, on ne sait pas comment faire pour sortir. Il y a problème de voiture. Si on a quelqu'un qui va venir payer nos produits, nos piments, aubergines, en tout cas, il y a un grand stock ici.
Les défis de développement sont énormes. Brungé Saint-Rémy, cadre du village, de son côté pointe du doigt le domaine de l'éducation.
Au départ, l'école était entièrement construite en bois par l'effort des parents. Et bon, Dieu merci, le conseil général nous a donné un bâtiment. Mais ça continue encore. Les autres classes sont abritées par des abattables et ça fait plus de 10 ans.
Une situation qui n'encourage pas bon nombre de parents à scolariser leurs enfants, au dire du directeur de l'EPP Adjaou, Yaoukofi Serge Arnaud.
Alors, cette année, nous avons 153 élèves. On voit certains enfants encore traîner dans le village, pourtant ils ont l'âge d'aller à l'école.
La présidente des femmes revient à la charge. Priez à moi, Colette.
Puis si on peut avoir un collège de proximité, et les femmes qui louent une maison pour leurs enfants, ils s'en vont à pas manger. Elles se donnent aux garçons n'importe comment. On aimerait qu'on ait un collège ici, là, comme ça les enfants peuvent aller et puis venir dormir chez les parents. Pour ça, on pourra bien les suivre.
Les habitants de ce village enclavé qui vivent dans une grande précarité, naturellement, la plupart des jeunes sont abandonnés à leur triste sort, au cœur d'une forêt dense. Pour Broukoumélan-Poulin, cette végétation favorable à l'agriculture peut être utile pour générer des revenus, d'où son appel aux collectivités territoriales.
Je voudrais demander une aide auprès de la mairie et aussi du conseil régional. Envoyer quelques petits projets, quelques financements pour soutenir la jeunesse, par exemple dans les cultures maraîchères, cultures vivrières, puisqu'il y a de l'espace qui va les aider à avoir un peu d'argent, c'est pas ma charge.
Pour des soins de santé, la population de cette localité qui est reliée au réseau électrique et dotée d'un château d'eau non fonctionnel s'y rend dans les villages voisins. François Kra, de retour d'Adjaou, Wélé, Radio de la Paix.
Au Sénégal, la crise larvée entre le président de la République et le Conseil constitutionnel, en dépit de l'annonce par communiqué de la présidence de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Le professeur agrégé de droit privé à l'université numérique, cher Amidou Kane, de Dakar, Jean-Louis Correa, qui est l'invité de la rédaction, estime que la démocratie sénégalaise est debout et que le président Macky Sall doit éviter le bras de fer avec le Conseil constitutionnel. Le professeur Jean-Louis Correa répond aux questions de Constant Maïdé.
Professeur Jean-Louis Correa, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui se passe au Sénégal?
Ce qui se passe au Sénégal, c'est les soubresauts de la démocratie, c'est les tensions relatives à la démocratie, notamment à une expression de la démocratie, c'est-à-dire dans sa dimension électorale. L'élection présidentielle cristallise beaucoup de tensions, beaucoup de débats qui débordent par moments dans la rue et qui fait également intervenir cette élection présidentielle. Le juge de l'élection, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Et nous sommes
justement, le Conseil constitutionnel sénégalais annule la loi reportant la présidentielle au 15 décembre prochain. Est-ce que c'est vrai?
À juste titre, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu une décision qui était très attendue. Le Conseil constitutionnel a déclaré que le décret qui abroge le décret de convocation du collège électoral, aussi bien que la loi qui modifie l'article 31 de la Constitution du Sénégal, tous ces textes-là ne sont pas conformes à la Constitution du Sénégal.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant?
Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que l'élection était prévue pour le 25 février. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel du Sénégal fait remarquer l'impossibilité de tenir l'élection à la date du 25 février. Ce que le Conseil constitutionnel demande, il invite les acteurs, le président de la République en premier, à voir comment organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Et c'est cela que dit le Conseil constitutionnel. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que dans la même décision du Conseil constitutionnel, ce dernier rappelle que le président de la République, selon la Constitution du Sénégal, n'a ni la possibilité d'augmenter son mandat, ni de diminuer la durée de son mandat. Et sachant que le mandat du président de la République actuelle se termine au 2 avril, lorsque le Conseil constitutionnel dit il faut que l'élection s'organise dans les meilleurs délais, ce sont les termes du Conseil constitutionnel, il faut entendre par là que dans tous les cas, l'élection présidentielle au Sénégal devra se tenir avant le 2 avril, c'est-à-dire avant la fin du mandat du président de la République actuelle.
Mais est-ce que c'est possible?
Ce qu'il faut maintenant, c'est que les acteurs discutent entre eux, qu'ils voient entre eux comment comprimer les délais, parce que si l'on s'en tient à la Constitution du Sénégal, le collège électoral doit être convoqué entre 45 jours et 30 jours au moins. Actuellement, nous sommes dans ce délai de 30 jours. Donc ça veut dire que le président peut toujours convoquer le collège électoral dans le délai qui lui est imparti par le Conseil constitutionnel, et notamment par la Constitution. Maintenant, ce qu'il faut, c'est justement que les acteurs se mettent ensemble, notamment les 20 candidats déclarés par le Conseil constitutionnel, pour voir comment ils peuvent accepter de raccourcir les délais pour que le premier tour se tienne le dimanche qui suit le 25 et que s'il y a un second tour, que ce second tour-là puisse se faire avant le 2 avril. Mais je pense que là, il faudra que les acteurs voient comment organiser cette élection dans les meilleurs délais, je me répète encore, en tout cas avant le 2 avril 2024.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre une sorte de bras de fer entre le Conseil constitutionnel et le président de la République?
Théoriquement, c'est possible, mais nous ne le souhaitons pas. Vous savez, je disais quelque part que le Sénégal a l'habitude d'avoir des soubresauts politiques qui inquiètent nos voisins, qui disent « Oui, mais est-ce que ce pays, connu quand même pour la démocratie, etc., ne va pas tomber dans l'abîme ?» Mais à chaque fois, il y a une institution, il y a quelqu'un qui permet de sortir de cela. Et je pense que le Conseil constitutionnel a joué ce rôle cette fois-ci. Et ce que l'on attend du président de la République, c'est qu'il puisse justement sur cette question-là savoir raison garder. Le droit est dit et le droit a été bien dit par le Conseil constitutionnel. Et la balle est dans le camp du président de la République. Maintenant, malheureusement, s'il entre dans un bras de fer avec le Conseil constitutionnel, c'est lui qui va être perdant. Et je rappelle que la démocratie sénégalaise est une démocratie qui est debout.
Est-ce que le président, dans cette affaire, n'a pas mis la charrue avant les bœufs parce qu'il aurait dû consulter le Conseil constitutionnel avant de s'engager en reportant l'élection pour le mois de décembre prochain?
Effectivement, le président aurait dû consulter le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a la possibilité de donner un avis au président de la République. Malheureusement, ce que nous avons constaté au Sénégal, c'est qu'au lieu de consulter le Conseil constitutionnel, comme le président a eu à le faire avant, lorsque le président a voulu réduire son mandat de 7 ans à 5 ans, il avait sollicité l'avis du Conseil constitutionnel. Mais sur cette question-là, au lieu de consulter le Conseil, le président n'a fait que demander au président du Conseil constitutionnel de venir le voir au Palais de la République. Ce n'est pas consulter le Conseil. Le président de la République veut le report. L'Assemblée nationale a voté le report. Mais le Conseil constitutionnel leur dit, votre loi sur le report est une loi inconstitutionnelle. Si le président ne se plie pas à cette décision, on entre dans une crise institutionnelle. Prions, espérons que le président de la République mesure la gravité potentielle de la situation pour ne pas entrer dans un bras de fer avec le Conseil constitutionnel.
Professeur Jean-Louis Correa, agrégé des facultés de droit et professeur à l'université numérique, cher Amidou Kane de Dakar, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Invité de la rédaction, vous l'avez bien entendu, Jean-Luc Correa. Il est donc professeur de droit privé à l'université numérique. Cher Amidou Kane de Dakar, il répond aux questions de Constant Maïlé sur la situation au Sénégal. C'est la fin de ce 12h, le rappel des titres. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens encore sur leurs nuages. Eh bien, ils ont remercié Dieu ce samedi pour la victoire des éléphants. Mais une occasion pour la guide religieuse d'inviter les populations à l'union et la cohésion. Cohésion sociale également à Sakassou. Les cadres issus de la région ont été invités à prôner la paix en toutes circonstances. C'était samedi lors du lancement d'un programme alimentaire d'urgence. Et puis en de chez nous, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche à Addis Abeba. Les dirigeants du continent ont évoqué les crises qui secouent l'Afrique et se disent inquiets. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants seulement, retrouvez la revue de presse avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Ouvrons cette revue de presse avec les attentats des Ivoiriens après l'organisation de la CAN 2023, remportée par les éléphants de